Donc il y a le mensonge, il y a l'altération de la vérité, de la réalité, des faits, plus ou moins maquillés, possiblement alternatifs. Puis il y a l'oubli aussi, qui peut être tout aussi intentionnel, malhonnête, délibéré. Le fait d'oublier, oublier ce qu'on a dit dans le passé, oublier ce qu'on a fait, oublier deux ou trois faits qui se sont bel et bien passés. Et je me demande, n'est-il pas étonnant qu'on oublie autant, à l'heure des cartes mémoire, des sauvegardes en série, des mémoires vives, flash, internes ou externes, à l'heure où la toile attire et attrape la moindre rumeur qu'on a posée en quelques signes, parfois 10 ans auparavant. À l'heure de l'extrême mémoire, jamais l'oubli n'aura été plus suspect qu'aujourd'hui, au point qu'on en vienne à le défendre parfois, à dire, vous savez, que l'oubli est un droit, le droit de recommencer, de se libérer du passé, de s'accorder une deuxième chance ou une autre vie, ce qui n'est pas un droit à l'amnésie. Il faut se souvenir, je crois, qu'avec l'oubli, on ne recommence jamais vraiment à zéro. Parce que pour qu'il y ait oubli, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un souvenir de l'oubli, sans quoi personne ne saurait qu'on a oublié. L'oubli, paradoxalement, c'est la preuve de la mémoire, qu'on peut tout au plus estomper, mais jamais complètement effacer, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « tu as oublié ». Je vais vous faire une confidence. Ce matin, j'ai voulu oublier quelque chose qu'on m'a fait, passer l'éponge, passer à autre chose. Et je me rends compte qu'en creux, je ne parle que de ça et que l'oubli, ça n'est que la mémoire de ça.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. De quoi l'oubli est-il le nom pour mon invitée d'aujourd'hui? Elle, dont toute l'œuvre semble constituer un rempart contre les effets d'une mémoire défaillante, parcellaire, passée sous silence. Elle est l'une des plus grandes voix de la littérature américaine. Elle s'est donnée pour mission de faire exister un peuple, une culture, une identité amérindienne, reléguée aux marges de l'histoire et de la société de son pays. Bonjour Louise Hardric.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Si je vous dis oubli, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement?
What comes to my mind is the act of retrieval, which is, as you said, it's really my work in life.
Ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment justement la nécessité de faire revivre cette mémoire.
And one of the most dangerous tendencies that Americans have is to
Une des tendances les plus inquiétantes en Amérique.
The present, constantly reinvent the present,
c'est celle qui consiste à réinventer sans cesse le présent,
before,
sans tenir compte de ce qui était avant, de toute l'histoire.
We see this right now.
Et on assiste à ce phénomène actuellement.
And we've never had
et c'est extrêmement inquiétant, parce que je crois que l'oubli n'a jamais atteint de tels sommets dans notre pays.
Et pourtant, nous vivons dans une époque d'information de masse, une époque de sauvegarde, une époque de carte mémoire, Louise Hardric. Je
pense que l'un des problèmes que nous avons est de regarder critiquement at what we have in terms of information.
Je crois que un de nos problèmes, c'est cette absence de regard critique sur l'information.
We have a vast barrage, but we haven't caught up in our emotional and intellectual lives. We haven't caught up with the
sur
fact
le plan
that
émotionnel
much
et intellectuel
of it is trash. You know, we have this influx of trash.
On n'a pas vraiment saisi la vacuité de ces masses d'informations qui nous inondent et qui sont en fait de la daube, du néant.
And we don't know quite how to filter this.
On n'arrive pas à filtrer les informations.
Et qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, précisément?
Well, everything about life.
Tout a changé. La vie a changé. Pour beaucoup de gens, la vie a changé.
Pendant la campagne présidentielle, Louise Hardric, on a beaucoup parlé des minorités noires et latino-américaines. Mais un petit peu moins, dites-moi si je me trompe, de la situation des Amérindiens. De quoi ça témoigne, ça?
Well, very interestingly, Latin American minorities are indigenous peoples.
Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les minorités latino-américaines sont des peuples autochtones.
So that the boasting about building this wall, this border wall, was taken as an enormous affront by tribal peoples who freely pass back and forth across the borders.
Et la volonté de bâtir ce mur entre le Mexique et les États-Unis a été très mal vécue comme vraiment une entrave à la liberté d'aller et venir de part et d'autre de cette frontière. Ça a été vécu comme un affront.
Il y a 4 ans, lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, Louise Hardric, pour la sortie de votre livre en France, Dans le silence du vent, enfants, vous disiez écrire pour que les Indiens survivent. Qu'est-ce que ça veut dire?
I would have to say that differently. I'm writing.
Il faudrait que je le formule différemment.
Out of a sense of survivance.
Ce qui motive mon écriture.
The original intent was for Native Americans to disappear.
La survivance. En fait, il y a une volonté délibérée d'éradiquer les peuples autochtones, les Amérindiens. Et qu'ils disparaissent dans le soleil couchant et sombre dans l'oubli, le grand oubli. C'était ça le plan à l'origine.
Native Americans have survived.
Or, les Amérindiens ont survécu.
And have increasingly found voice and strength and courage.
Et ils ont réussi à retrouver une voix, une force, un courage.
So everyone who's native, part native, is all working together.
We're all on one. Donc toutes ces personnes qui appartiennent à des peuples autochtones, eh bien, sont solidaires. Ils œuvrent ensemble.
We have a solidarity. I stand with every other native person who is
par exemple, je me tiens aux côtés, je me sens solidaire de tout Amérindien ou toute personne autochtone qui a le souci de conserver une culture, de conserver un ancrage, un territoire. Et d'entretenir vivante la mémoire, très important.
Celle qui retient la mémoire dans cette émission, c'est la culture et son actualité mnésique, que dis-je, hypermnésique. Tiens, quelle est-elle aujourd'hui, mercredi 5 avril?
Et voilà, on a les droits.
Accord fantastique pour le monde de la musique après des mois de négociations. Le jeune prodige de la musique en ligne Spotify est enfin parvenu à un nouvel accord avec le mastodonte Universal. L'enjeu est de taille puisqu'il permettra au numéro 1 mondial du streaming musical d'accéder au catalogue d'Universal, et ce pour plusieurs années. À la clé, un modèle économique reboosté pour Spotify et une meilleure rémunération des artistes. Et ça, c'est chic.
J'écris parce que j'aime écrire. Mon rêve était pour être une professeure à l'université. Tous les temps, j'écris. Parce que l'écrit, j'aime l'écrire.
Peine perdue pour vous, Louise Erdrich, mais peine gagnée pour Imbolo Mboué. Le prestigieux Penn Faulkner Award a été attribué hier à la Camerounaise Imbolo Mboué pour Voici venir les rêveurs, fable de l'exil nostalgique, extatique et cynique. Un premier roman publié en France chez Belfond et dont les éditeurs américains s'étaient littéralement arraché le manuscrit, remporté par Random House pour la somme historique $1 million d'avance. Grosse, grosse prestance.
Le queer est un homme ou une femme, ou un homme et une femme, ou ni un homme ni une femme, qui peut être homo, hétéro, bi, tri, omni ou asexuel, et qui a choisi de simplifier les choses grâce à la dénomination commune queer.
God Save the Queer à la Tate pour célébrer le 50e anniversaire de la dépénalisation de l'homosexualité en Angleterre. La Tate Britain de Londres ouvre aujourd'hui ses portes à Queer British Art, la première grande rétrospective d'art queer. Au menu, un panorama foisonnant de l'art LGBT de 1861 à 1967, des photos, des vidéos, des travaux de Francis Bacon ou encore de Cecil Beaton. Ça détonne.
Bienvenue dans cette belle maison qu'est l'Opéra de Paris. Yop, 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 yop.
Mercredi de printemps, beau temps sur les écrans aujourd'hui dans les salles obscures. On va se rafraîchir devant Corporate, le drame glaçant de Nicolas Silliol avec Céline Salette en gestionnaire des ressources inhumaines. On va s'électriser devant La Vengeresse, le film d'animation corrosif et incisif signé Bill Plimpton et Jim Lujan. Et enfin, on risque deux ou trois entrechats devant l'opéra, le très beau documentaire de Jean-Stéphane Bron sur les coulisses de l'Opéra de Paris. Oui. Romancière Louise Erdrich, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, Louise. La première fois, c'était il y a 4 ans, à Minneapolis, dans votre petite librairie qui s'appelle Birch Bark et qui est légendaire aux États-Unis parce qu'elle est la plus complète en littérature amérindienne du pays. Mais c'est pas qu'une librairie. En fait, vous y vendez de tout, même de la tisane, une sorte de drugstore, en fait. Rassurez-moi, il y a rien d'illicite, c'est pas Amsterdam.
No, we thought about it because we were so poor in the beginning.
Mais en fait, on y a pensé, ça nous a effleuré parce que nous n'avions pas un rond. Et on s'est dit, bon, peut-être qu'on va survivre, voilà, en vendant certaines choses. Non, non, mais on a été très sages, on s'en tient aux substances licites.
Unless you consider some of our ideas, inflation, you know, inflammatory, I don't know.
Sauf à considérer nos idées mêmes comme étant trop provocatrices, mais sinon on reste dans la légalité.
Justement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui aux États-Unis, à l'heure d'Amazon, des iBooks et autres tablettes tactiles, de tenir une librairie ? Qu'est-ce que ça signifie ?
I didn't think when I started this bookstore that it would be a political statement.
Quand j'ai ouvert la librairie, je ne pensais pas que ce serait un manifeste politique, mais en fait, c'est un lieu éminemment politique, un lieu de rencontre. Les gens peuvent venir discuter des livres, saisir vraiment la portée, l'existence véritable du livre dans tout son côté physique. C'est très important.
And in the United States, the idea is always to let capitalism rage along. You know,
vous savez, aux États-Unis, la théorie qui prévaut, c'est de ne pas entraver le capitalisme le plus sauvage et que tous les produits soient vendus au prix le plus bas possible. Et donc, il n'y a pas de système de protection comme celui du livre unique pour les livres, par exemple. Il est donc pratiquement impossible de nos jours de tenir une librairie aux États-Unis. Et je le reconnais, je suis la première étonnée que nous ayons survécu. Mais croyez-moi, les gens du coin adore avoir cette librairie avec qui nous rassemble, qui crée une communauté, la communauté du monde de l'écrit. Les gens viennent s'y abreuver, c'est comme un lieu sacré. Quand les gens y viennent, ça les remplit. Et souvent ils me disent « Ah, je cherchais un lieu comme cela et je l'ai trouvé ».
Et vous dites souvent, Louise Erdrich, que les livres ont de beaux jours devant eux. Pourtant, des livres, il n'y en avait pas beaucoup chez vous, dans votre enfance. Est-ce que ça veut dire qu'une histoire, pour vous, elle est d'abord faite pour être racontée à voix haute, avant même d'être lue, avant même d'être écrite ?
True. I listened to my family and my parents and my uncles and aunts.
J'ai écouté tous les membres de ma famille, les tantes, les oncles, raconter des histoires, c'est encore une grande tradition dans la famille. Et on rit.
Everything becomes a story. I can't really describe it, but
et tout est tourné en histoire, tout le temps, la moindre anecdote, sans cesse. Je n'arrive pas à le décrire plus précisément, mais... Et c'est tout cela qui crée cette toile de fond qui rend justement la question de la mémoire et de l'oubli si importante. Et ça vient du plus profond de moi, de ce que j'étais, le petit être que j'étais enfant. Et je retrouve tout ce sens, cette chaleur que nous donne ce sentiment d'appartenance à notre communauté.
Cette culture, cette tradition orale dont vous parlez, elle est toujours aussi vivante aujourd'hui.
Very much alive.
Absolument, oui.
My daughter, who became fluent in Ojibwe.
D'ailleurs, ma fille qui a appris la langue Ojibwe la parle couramment.
That's what her life is. Her life is listening to elders.
Eh bien, c'est devenu toute sa vie. Elle va écouter les anciens, les ancêtres, raconter leurs histoires, qu'elle transmet à son tour en les racontant à de jeunes enfants. L'idée étant de retrouver, recueillir toute cette mémoire, de donner confiance aux enfants et qu'ils sachent combien la langue est importante, y compris dans la vie des tribus autochtones, des tribus américaines.
À partir d'histoires, et je vous propose d'en écouter une histoire racontée par Johnny Cash, si vous le voulez bien, As Long As The Grass Shall Grow, sur l'album du même nom dédié à l'histoire amérindienne, justement. 1964, vous êtes sur France Inter avec Louise Erdrich, vous écoutez Boomerang.
As long as the moon shall rise, as long as the river,
as the rivers
flow,
as the rivers flow,
as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow. The Senecas are an Indian tribe of the Iroquois Nation. Down on the New York-Pennsylvania line, you'll find their reservation. After the U.S. Revolution, Corn Planter was a chief. He told the tribe these men they could trust. That was his true belief. He went down to Independence Hall, and there a treaty signed that promised peace with the USA and Indian rights combined. George Washington gave his signature, the government gave its hand. They said that now and forevermore that this was Indian land. As long as the moon shall rise, as long as the river flow,
as the rivers flow,
as long as the sun will shine,
as long
as the grass shall grow.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'elle était assez impressionnante. Hein. Quelque part entre la grande prêtresse, la rockeuse hippie, l'actrice hollywoodienne, avec ses yeux clairs et ses longs cheveux, son visage aux hautes pommettes, son sourire ravageur à faire s'arrêter le temps, grande, simple, très élégante, robe courte, gilet et col en noir, apaisée, apaisante, Louise Erdrich, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin, l'année dernière apparu en France, Le pique-nique des orphelins, dans une nouvelle traduction d'Isabelle Reynarez. Ce livre, il avait été publié pour la première fois il y a 31 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve une terre, un paysage, des couleurs qui sont celles du Dakota du Nord et du Minnesota, et où évoluent la plupart des personnages de vos romans. Je pense notamment à l'amour sorcier, à la rose, à la malédiction des colombes, ou encore dans le silence du vent. Il faut peut-être nous les décrire, ces territoires.
Oh, I'm going to start with my description.
La description que vous avez faite de moi.
Think that's true. That's wonderful.
Eh bien, si tout le monde vous croit sur parole, Augustin, je m'en réjouis. Formidable. Mais en tout cas, merci pour cette description. Et je ne sais pas la cause de cette illusion, mais je crois que vous êtes sous l'emprise d'hallucinations, Augustin. Mais ça me va. La grande prêtresse, ça m'a beaucoup plu.
Ces paysages, Louise Erdrich, ces territoires qui sont vos territoires d'écriture, il faut nous les décrire.
We were talking about the word reservation, and that's so interesting
because nous parlions du mot réserve, reservation en anglais.
The Ojibwe language,
ça c'est intéressant. Dans la langue Ojibwe,
the reservations are the Ishkoneganan.
Le mot pour réserve, c'est Ishkoneganan, qui se traduirait par les restes.
You know,
comme on dit, les restes d'un repas,
ce
qui n'a pas été consommé. Et il y a eu des traités par lesquels ces terres ont été données à des tribus amérindiennes. Bien sûr, ce n'étaient pas les plus belles terres, les plus riches. C'était celles qu'on négligeait, dont personne ne voulait. Eh bien, néanmoins, il faut savoir que ces territoires sont pleins d'émotions pour les Amérindiens. Et c'est capital pour eux d'avoir au moins ce bout de terre.
Vous êtes née dans les plaines du Minnesota. Louise, ça a formé votre imaginaire. Est-ce qu'avec le temps, cette région n'est pas devenue, au fil du temps donc, un territoire imaginaire ?
Not at all. It's real.
Non, pas du tout imaginaire. C'est un territoire bien réel. Mes parents continuent de vivre dans ces grandes plaines. Toute ma famille, j'y retourne régulièrement. Et vous savez, il y a eu un événement qui nous a tous rassemblés. Ce sont les événements de résistance autour de Standing Rock. Quand les tribus de Standing Rock ont décidé qu'elles n'allaient pas autoriser la construction de ce gazoduc ou oléoduc sur leur terre, terre de rites sacrés. J'ai trouvé ça admirable. Ils se sont tous dressés ensemble. Ils ont adopté une grande discipline dans les messages qu'ils envoyaient.
I felt that what happened there was the beginning.
Et j'ai eu le sentiment, en assistant à ce soulèvement, que c'était un début de résistance, mais une résistance avec des moyens pacifiques.
Even the leftovers are being taken.
Mais ce qui se passe, c'est que ces terres, donc, qu'on qualifiait de ce qui reste, ce dont personne ne veut, eh bien, même ça, qui était la seule possession laissée aux Amérindiens, on veut la massacrer, la dévaster avec la construction de ce pipeline.
Il se trouve que votre territoire, celui que vous écrivez depuis tant d'années, Louise Erdrich, il vous a valu d'être comparé à un William Faulkner, qui avait lui inventé tout un comté dans le Mississippi, le Yoknapatawa. Et j'ai l'impression que dans la culture et la littérature américaine, de façon plus large, la terre reste fondamentale.
Yes, and what is also so interesting about that is, you know,
oui, puis il y a autre chose d'intéressant à ce propos.
People say, oh, the Americans are ahistorical in a sense because they haven't.
Souvent on dit les Américains n'ont aucun sens de l'histoire. Ils n'ont jamais subi de guerre véritable sur leur propre territoire.
That may be what my writing has in common with William Faulkner.
Mais là, c'est peut-être ce qu'il y a de commun entre Faulkner et mon écriture.
Every native person survived an intense war upon
chaque Indien en Amérique a en fait subi une terrible guerre, une guerre contre leur statut d'être humain, des tentatives de génocide, la dépossession. Donc eux, les Amérindiens, ils ont le sens de l'histoire, ils n'ont pas oublié leur histoire. De même que William Faulkner, et les Afro-Américains également.
Justement,
ils ont tous ces souvenirs de dépossession, de traumatisme, d'humiliation. Et ils entretiennent le souvenir de
dispossessing
tout ça.
Others who can be ahistorical because they have a willfulness toward
forgetting. Et je crois que ce sont ceux justement qui ont commis ces actes barbares qui sont dans l'oubli. Eux veulent oublier leurs exactions. Notre pays s'est fondé bien sur le vol,
slavery,
l'appropriation illégale, le meurtre, l'esclavage. Beaucoup de violence, d'annihilation de l'autre.
You know,
et qui est-ce qui a envie de regarder ça en face? C'est pour ça qu'ils oublient. On n'apprend pas tout ça aux enfants à l'école. C'est vraiment tout un pan oublié, négligé de l'histoire américaine.
Je pense tout de suite, Louise Erdrich, à ce roman Le pique-nique des orphelins que j'ai relu pour préparer cette émission et qui raconte l'histoire justement d'une fratrie sur plus de 40 ans. Et j'aimerais en lire un extrait en français, si vous le voulez bien. « C'est allé où ?» demanda-t-elle soudain. Ses yeux fixaient le paysage de l'autre côté du pare-brise. Sa voix montait vers l'aigu. « C'est allé où ? Tout ce qui lui est arrivé dans la vie, toutes les choses que nous avons dites et faites, c'est allé où ?» Pendant les quelques kilomètres qui nous restaient à parcourir, je ne pus m'empêcher de poursuivre dans ma tête l'étrange réflexion de Célestine. Dans mon métier, j'avais vu des milliers de cerveaux, de moutons de porc, de bœufs. C'étaient des masses grises comme les nôtres. Où tout s'en allait donc ? Qu'y avait-il vraiment à l'intérieur ? Les champs plats se déployaient, les fossés peu profonds bordaient la route de part et d'autre. Je sentis des pensées vivantes bourdonner en moi, et j'imaginais des abeilles minuscules, des insectes composés d'électricité bleue, dans une colonie si fragile qu'elle s'éparpillait au moindre contact. J'imaginais un coup, comme un maillet sur la tête d'un mouton ou un choc, et je vis tous les seins s'échapper en vibrionnant. Qui pouvait les arrêter? Qui pouvait les attraper dans ses mains? Je me suis demandé, Louise Erdrich, c'est toujours sur ce qui vous échappe que vous écrivez?
But also what becomes part of our,
ce qui m'échappe, mais également
what enters into our physical life, because nothing is ever lost.
Tout ce qui pénètre notre vie physique.
And
vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée.
An energy that suffuses everything, and that is made
là,
up of,
il s'agit de cette énergie qui infuse tout.
The physical, it is made up of the epigenetic, it is made up of everything.
C'est fait d'épigénétique, d'énergie. Et tout cela, ce sont des flux, des molécules qui ne vont jamais disparaître.
My daughters and I are fascinated with this because, you know,
ça nous fascine, ma fille et moi, on en parle beaucoup de ça.
You can find the molecules of fish and people.
Vous savez, bon, les poissons, il y a les molécules.
Beings in a tree. A tree,
des poissons, des êtres humains, on retrouve tout ça dans un arbre. Tout est relié,
everything
sur terre et dans
connected.
La vie.
Quelle est la vocation de l'écrivain que vous êtes, somme toute, Louise Erdrich?
I think it is to rescue the connections that we have.
Ma vocation, c'est de sauvegarder justement tout ce qui nous relie.
I want to use language in a way that is precise and clear.
Et puis je tiens à utiliser la langue d'une manière précise, claire, qui soit belle aussi.
Not only is history under attack in the United States, but clarity of language.
On tire sur l'histoire à boulet rouge aux États-Unis et on massacre aussi tout ce qui peut y avoir de clarté et de vrai, de réel dans la langue.
We have a confuser in office. We have a great. We have.
Et puis malheureusement, celui qui a pris ses fonctions à la tête du pays ne cherche qu'à perturber les choses et à créer de la confusion et du chaos.
So it's more important than ever for writers to be clear, precise.
Voilà pourquoi il est plus important que jamais que les écrivains soient clairs, soient précis et à travers leur écriture qu'ils recherchent la vérité.
Merci infiniment, Louise Erdrich, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Merci aussi à votre interprète ce matin, Eve Dare. Je rappelle que votre dernier roman publié chez Albin Michel s'appelle Le pique-nique des orphelins et que vous consacrez également de très belles pages à ce qui s'est passé à Standing Rock cet hiver dans la toute nouvelle revue America, en kiosque et en librairie. Tout de suite, les médias, l'instant M, juste après ça.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait. Ne travaillait jamais. Paréo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux. Le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un bal d'aquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. Ne parlez pas d'amour. L'amour, c'est quoi? Ne parlez jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas.
Albin de la Simone, le grand amour, évidemment que ça existe. Sonia De Villers, c'est à vous, l'instant M.
Oui, ça existe, Augustin. Le grand amour, ça existe. Qu'est-ce qu'on fait? On continue d'écouter un peu la musique? De penser au grand amour?
C'était l'amour, je m'y connais. Jusqu'à ce jour de fin juillet, elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail, de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.
Et voilà, tous amoureux, Augustin.
On se retrouve demain, salut.
Salut.